urbaniste de formation spécialisée en prévention des risques naturels. Je travaille effectivement pour Ouranos, qui est un consortium de recherche sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Et dans Ouranos, j'appartiens à l'équipe IEA, Impact et Adaptation. Bon, justement, je remplace Caroline qui est retenue à l'extérieur. La présentation a été en grande partie montée par Caroline. Donc, j'ai essayé de la mettre un peu à ma main, mais bon, je vous demanderai d'être indulgent, s'il vous plaît. Donc, au cours de cette présentation-là, qui traite de la synergie possible, en fait, entre Ouranos et la ville, en tant qu'outil institutionnel pour assurer le passage de la recherche à l'adaptation. Je vais aborder brièvement les changements climatiques, c'est-à-dire d'où ils viennent et où ils vont. Je vais faire quelques rappels qui ont peut-être été faits dans d'autres présentations. J'étais pas là, donc je le sais pas. Mais bon, désolé si c'est le cas, mais ça va être bref. J'aborderai aussi le réseau Ouranos et sa structure. Les résultats des modèles de climat, bon, ce qu'ils nous indiquent en fait grossièrement. L'impact des changements climatiques sur les systèmes, bon, à travers une réponse à une problématique multidisciplinaire comme on a vu. Et je terminerai avec les changements climatiques et peut-être un peu plus l'environnement bâti, donc la ville. Bon, donc si on se rapporte, c'est probablement peut-être des diapos que vous avez déjà eues parce que, bon, ça, entre autres, c'est pris du document du GIEC, du quatrième rapport du GIEC. Donc, si on se rapporte, si on reporte la température moyenne mesurée, en fait, depuis à peu près 1950, là, une fois que tout ça est harmonisé, on obtient la courbe qu'on voit à l'écran. Bon, évidemment, l'axe vertical, qui sont l'écart à la moyenne. On a l'axe de l'autre côté qui est la température moyenne effective. Les petits points sont vraiment la température moyenne pour chacune des années. La ligne bleue au travers, qui est l'espèce de moyenne glissante, si on veut, sur 10 ans, là. Et on a la zone grisée qui est une espèce de zone de certitude, si on veut. On a aussi les droites, effectivement, qui nous montrent les changements là, sur différentes périodes, donc 25 ans, 50 ans, 100 ans, etc. Donc, selon ce graphique-là, si on veut, et surtout selon le rapport du GIEC, on s'aperçoit que le changement climatique mondial est sans équivoque, évidemment, et que les activités humaines qui entraînent la combustion des énergies fossiles sont très probablement responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre, qui, eux, sont responsables à leur tour, évidemment, de l'augmentation des températures à laquelle on assiste présentement. Donc, les activités humaines, surtout dans les pays industrialisés, ont créé un effet de serre additionnel à l'effet de serre naturel, évidemment, en augmentant les concentrations de l'ensemble des gaz à effet de serre. Puis, depuis la révolution industrielle, le développement économique et social de nos pays industrialisés s'est construit principalement sur la production et la consommation en grande quantité d'énergie. Donc, largement fondée sur l'exploitation de combustibles fossiles, l'industrie, les transports, l'habitat, l'agriculture intensive émettent dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz à effet de serre que la planète, évidemment, n'arrive plus vraiment à absorber. Donc, depuis le milieu des années 1800, à peu près, la consommation énergétique mondiale n'a cessé de croître de manière plus ou moins exponentielle, c'est ce qu'on remarque. Et cette consommation ne devrait pas cesser de croître, pour différentes raisons. Dans les pays occidentaux, parce qu'on consomme de plus en plus de biens manufacturiers, de biens produits manufacturiers, dont la fabrication coûte en énergie, finalement, et engendre des émissions de gaz à effet de serre. Nous nous déplaçons de plus en plus souvent et aussi de plus en plus loin. nous mangeons de façon globale plus de viande. Or, on sait que la production de viande requiert une grande consommation d'énergie fossile. Alors que dans les pays en développement, ce qu'on remarque, c'est que les habitants aspirent à rouler eux aussi en voiture, comme nous, aspirent eux aussi à prendre l'avion pour se déplacer de plus en plus souvent, aspirent à consommer bien et aspirent aussi à manger plus de viande. Donc, ils aspirent, on pourrait dire, à une espèce de mode de vie qui ressemble à celui des pays industrialisés qui consomment malheureusement beaucoup plus d'énergie par habitant. Donc, étant donné que les changements climatiques ne peuvent être totalement évités, on est dedans de toute façon, et pourraient être plus rapides et plus prononcés qu'on ne l'anticipe actuellement même, étant donné aussi que les efforts de limitation des émissions mettront du temps à se traduire, bon, par des effets visibles en termes de variabilité climatique et d'événements climatiques extrêmes, ben l'adaptation au changement climatique est nécessaire, et ça dès aujourd'hui. D'une part, parce qu'un ajustement des systèmes permet d'atténuer les effets négatifs attendus et permet aussi d'exploiter les bénéfices et les opportunités possibles. Et d'autre part, parce qu'une adaptation proactive peut aussi limiter les coûts socio-économiques du changement climatique. Bon, donc pour ceux qui ne connaissent pas Urana, c'est un regroupement de spécialistes en climatologie, en évaluation d'impact et en développement d'outils d'aide à la décision en fait en matière d'adaptation. Urana rassemble une masse critique de spécialistes basés dans ses locaux à Montréal, tout près d'ici en fait. Une vingtaine d'employés sont sur place. Une trentaine d'autres employés sont aussi sur place, mais sont des contribués de différents ministères ou membres d'Uranos, dont moi, j'en suis une. Par exemple, je suis contribuée à la sécurité publique. Et ce qu'on entend par contribuer, c'est soit un employé d'un ministère qui vient travailler directement dans les bureaux d'Uranos à différentes fonctions, ou si le ministère n'a pas d'employé de disponible à laisser aller vers Uranos, à ce moment-là, il va payer une partie du salaire d'un contribué. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou si Uranos a accès à un réseau étendu de plus de 200 spécialistes, là, 250 chercheurs professionnels qui sont présents dans à peu près toutes les régions du Québec. Dès la création d'Uranos en 2001, Uranos est comme un organisme qui permet d'intégrer l'ensemble des disciplines et l'ensemble des partenaires afin d'aider en fait les décideurs, c'est un des buts principaux, d'aider les décideurs dans leurs choix stratégiques et de permettre à ces décideurs-là justement de mieux planifier dans un contexte de changement climatique. C'est un organisme à but non lucratif. Il est essentiellement fondé sur du financement public, dont 4 millions de budget annuel de base, à quoi se greffent différents financements ponctuels comme l'ICAR, par exemple, l'initiative de collaboration en adaptation régionale qui est de Ressources naturelles Canada, et aussi du PAC, qui est du plan d'action au changement climatique, qui, lui, est du gouvernement provincial. C'est aussi un organisme qui est indépendant dans sa gestion et dans sa prise de décision. C'est un consortium de R&D, en partie, qui fournit un support pour la recherche, un accueil par un encadrement, par du cofinancement à certaines recherches. C'est un organisme qui produit et diffuse des données et de l'information qui sont pertinentes pour prendre des meilleures décisions, qui offre un service conseil aux membres et aussi aux partenaires de l'organisation, et qui agit en partenariat avec les usagers sous une forme d'approche participative le plus souvent en matière d'adaptation au changement climatique. Sa mission est d'acquérir et de développer des connaissances et aussi d'informer et de conseiller les décideurs et les usagers, comme je l'ai mentionné. Donc, nous avons une programmation scientifique qui inclut en fait trois programmes en sciences du climat et une dizaine en évaluation d'impact et de stratégie d'adaptation. Donc, en étroite collaboration avec les spécialistes en hydroclimatologie, l'équipe d'impact et adaptation réalise des analyses d'impact et de vulnérabilité, surtout sur les systèmes naturels, alors qu'en étroite collaboration avec les usagers et les spécialistes, ben, l'équipe d'impact et adaptation réalise des évaluations surtout sur les systèmes humains. De plus, bon, cette structure d'Ouranos permet d'impliquer concrètement dès le début des projets des acteurs qui devront prendre des décisions, et ça tant au niveau local que régional que provincial. Et c'est pour ça que, justement, ici, le niveau d'engagement des membres, on retrouve à tous les échelons, finalement, des gens de différents paliers, autant des ministères que des municipalités. Donc, le but ultime, finalement, de la synergie des multiples acteurs est de générer la science qui est requise pour passer de la science des changements climatiques, bon, à l'échelle planétaire, finalement, au soutien à l'adaptation pour des problèmes qui sont beaucoup plus spécifiques, si on veut, et ce, ben, à tous les paliers d'action et de décision. Donc, c'est l'ensemble de la structure d'Ouranos. Pourquoi ça marche pas? Ouais, ben le button était gelé. Ah, voilà. Bon. Du côté des sciences du climat, on s'affaire à élaborer des modèles climatiques, évidemment, des modèles climatiques régionaux qui vont permettre de produire des simulations, bon, dont ici on en voit un exemple. Dans le cas qu'on voit là, c'est un scénario pour la période 2041-2070 qui a été basé sur des données à peu près 60-90 avec des résultats concernant la température et les précipitations selon différentes saisons. Et c'est ce genre de simulation qui va être ensuite utilisé dans les différents projets d'impact et d'adaptation. Les équipes de sciences du climat cherchent aussi les outils les plus adéquats, tout dépendant ensuite de comment ils vont être utilisés. Et ça, pour couvrir les incertitudes et les simulations climatiques à l'échelle de l'impact. Par contre, ça a un désavantage, c'est-à-dire que pour l'instant, plus on veut un système des scénarios robustes, et là, on rejoint un peu la question tantôt qu'il y a eu sur l'incertitude, plus on veut un système robuste où tous les modèles s'accordent finalement, moins on travaille à une échelle précise, à une échelle fine. Donc, s'il est un peu représenté en haut, et là, on travaille à une échelle de tuiles de 250 km. Alors qu'en bas, on travaille beaucoup plus avec le modèle qui est développé pour le Canada, pour le climat canadien. Pour tout l'environnement qui est développé par le Canada. Et là, on travaille à des tuiles de 45 km. Par contre, le système est un peu moins robuste parce que au lieu de se fier à un ensemble de données importants, tous les points de couleur qu'on voit en haut, on se fie seulement aux quelques points de couleur qui sont en bas. Donc, évidemment que les scénarios sont moins robustes à ce moment-là. Bon, donc les équipes de sciences du climat fournissent des données détaillées aux autres groupes, évidemment, et à l'impact au groupe d'impact et adaptation. Puis, ils vont essayer le plus possible de cerner les incertitudes qui accompagnent justement les scénarios qu'ils fournissent. Il en résulte de leur travail un portrait, différents portraits, entre autres, mais dans ce cas-ci, c'est un portrait synthèse du sud du Québec qui se traduit, bon, comme on peut le voir, par un adoucissement des hivers, dans le cas présent, et une tropicalisation des étés, bon, donc des étés plus chauds et aussi probablement plus humides. Avec comme résultats principaux, et dans ce cas-ci là, pour le sud du Québec, des risques accrus pour les communautés moins favorisées et localisées dans des zones exposées aux risques, mais également pour les nombreuses infrastructures vieillissantes. Donc, il y a plus de risques aussi pour les nombreuses structures vieillissantes. Plusieurs ingrédients, en fait, sont réunis pour que tout changement de fréquence, surtout dans les extrêmes, provoque des impacts socio-économiques complexes qui deviennent parfois là, majeurs et difficiles à quantifier. On voit aussi des conflits d'usage de l'eau par rapport à ceux ici qui poursuivent leur croissance. L'environnement naturel et les espèces menacées qui sont étroitement liées au climat courent aussi des risques importants, surtout dans une région qui est déjà stressée par un paquet d'autres éléments. Et des économies ou des opportunités qu'on oublie dans différents secteurs dont l'énergie et l'agriculture sont également prévues. Donc, c'est sûr qu'habituellement, s'adapter à quelque chose de mieux, c'est pas mal moins difficile que s'adapter à quelque chose de pire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on en parle toujours un peu moins. Donc, Ouranos travaille sur plusieurs fronts pour faciliter, en fait, l'adaptation par le développement et le peaufinement de modèles, bien sûr, et par la production de scénarios qui vont être utiles aux autres équipes, mais également par l'analyse d'impact et de vulnérabilité en partenariat, ça c'est bien important, avec les acteurs de l'adaptation pour faciliter la prise de décision et choisir la meilleure R&D possible, la plus appropriée. Oui, ça vous a fatigué hein, d'avoir un écran blanc.
Je suis pas habitué, je crois que c'est
les enjeux en matière d'impact et d'adaptation, voilà, ça apparaît. Les enjeux en matière d'impact et d'adaptation sont nombreux et se perçoivent justement dans différents programmes qui sont chapeautés, comme on peut le voir, en haut et en bas par des directions et aussi par des comités, soit de programme ou de pilotage, là, tout dépendant des sources de financement. Si jamais il y en a qui seraient intéressés à voir vraiment cette diapo claire, là, parce que j'ai pas réussi à la mettre plus claire que ça, mais elle existe, donc c'est possible. Et au centre, finalement, on retrouve tous nos projets et activités liées à la programmation impact et adaptation. Et au travers de ça, ben comme je le disais, dans les comités de programme, évidemment, il y a des coordonnateurs de programme. Caroline est effectivement coordonnatrice du programme Environnement bâti. Et les différentes couleurs là vont surtout être en lien avec les financements, mais tout ça pour globalement montrer qu'il y a vraiment un partenariat avec les différents paliers décisionnels, beaucoup d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité entre les projets, mais également à l'intérieur de chaque projet et de chaque programme. Donc, les différents programmes, là, environnement arctique, environnement bâti, écosystème, environnement maritime, ressources hydriques, énergétiques, forestières, on traite de l'agriculture, de la santé, du tourisme, et on a aussi quelques enjeux globaux dont présentement, là, on travaille sur le développement de la stratégie gouvernementale en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est plus les enjeux globaux, en plus, sont habituellement plus transversaux, évidemment. Donc, au travers du programme d'environnement bâti de Caroline, Ouranos s'attarde principalement aux impacts potentiels des changements climatiques, évidemment, sur la ville et les infrastructures. Les changements climatiques, évidemment, vont probablement affecter les municipalités, affectent, c'est déjà le cas, directement et indirectement. Par indirect et direct, là, on voit tout simplement, par exemple, que l'augmentation des fréquences des précipitations abondantes peut engendrer des débordements plus fréquents des réseaux municipaux, des réseaux d'égouts municipaux. Donc, il y a l'impact vraiment direct, mais les débordements peuvent à leur tour causer des inondations dans certains bâtiments municipaux, peuvent occasionner des pannes électriques, peuvent perturber le réseau de transport. Donc, par là, on voit tous les impacts indirects, finalement. Les différents services municipaux potentiellement impactés par les changements climatiques sont, entre autres, les services à la population, qui jouent évidemment un rôle central dans la réduction des risques pour la santé et la sécurité liés au climat. Et aussi les départements municipaux qui sont responsables, eux, de l'organisation et de la mise en valeur du territoire, qui risquent fortement d'être affectés par les impacts que les changements climatiques auront et ou ont sur les infrastructures, les bâtiments municipaux, sur le développement, les activités économiques et ressources naturelles, écosystèmes, etc. En ce qui concerne l'environnement bâti et les infrastructures, on peut dégager en fait les faits suivants. Je vais terminer sur ces certains points. Donc, que les infrastructures sont construites selon le principe que les conditions climatiques passées sont représentatives des conditions futures, alors que c'est pas vraiment le cas dans le contexte des changements climatiques. Et de plus en plus, on s'aperçoit que même, par exemple, au niveau des ingénieurs, on tente de modifier, de changer les normes, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Aussi, on peut dégager que les impacts des changements climatiques et des extrêmes climatiques entraînent la dégradation et une perte d'efficacité des infrastructures, que les mesures d'adaptation peuvent être mises en œuvre à toutes les étapes du cycle de vie du bâti. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est-à-dire que si dès le départ, on commence à penser changement climatique, adaptation au changement climatique, on peut réussir à construire et avoir des bâtiments qui ont un cycle de vie beaucoup plus long et beaucoup plus adapté. Donc, la définition des rôles et des responsabilités des municipalités en matière d'adaptation, ben, on l'a vu, c'est pas nécessairement une chose facile. Ça a été discuté aussi dans les différents ateliers, je crois. Les municipalités auront, entre autres, un rôle, il semble, d'adaptateur en tant que propriétaire, évidemment, et fournisseur de services à la communauté. Il y aura un rôle aussi de catalyseur et d'animateur, si on veut, dans le sens qu'évidemment que la municipalité doit collecter des données, doit collecter de l'information, doit analyser, mais doit aussi communiquer tout ça. Et aussi un rôle d'intervenant et, bon, responsable évidemment au niveau de toute la réglementation. Quant à Ouranos, afin de favoriser justement l'adaptation efficace au changement climatique à l'horizon 2020, donc ce qui est demain finalement, là, nous devrons nous attarder à maintenir un étroit dialogue avec les usagers, comme on fait présentement et encore plus, et maintenir une organisation souple justement pour être capable de répondre aux différentes demandes, de s'adapter finalement, de maintenir une structure réseau qui favorise les collaborations et le partenariat, de poursuivre le développement d'études quantitatives, essayer de toujours plus affiner ces études-là, de les rendre de plus en plus complètes afin de favoriser certaines adaptations, mais en contrepartie de développer une vision intégrée qui pourrait supporter d'autres types d'adaptations, justement par rapport à des études qui ne sont pas nécessairement quantitatives et justement dans les cas où il y a encore de l'incertitude et où on doit quand même prendre des décisions et s'adapter malgré l'incertitude. Alors, voilà. Merci.